Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur eurosport.fr et rugbyrama.fr. Évidemment, notre basque préféré est là, notre légende Imanol Arinordoki. Comment ça va Imanol?
Écoutez, ça va très bien, ravi d'être avec vous.
Eh oui, j'ai vu que tu es habillé tout en bleu, c'est pour rendre hommage à l'équipe de France féminine qui va démarrer sa Coupe du Monde?
Exactement, c'est le bleu de l'équipe de France.
On en parle dans quelques instants. À tes côtés, comme chaque semaine, deux journalistes de la rédaction du Midi Olympique. Ils sont enfin parvenus à prendre la place d'Arnaud Beurdelet, pourtant pas facile à déloger, Jérémy Fada et Marc Duzan. Salut les gars.
Salut Olivier, salut Jérémy, salut Manol.
Salut, c'est vrai, quand Arnaud est en place comme en mêlée, c'est pas simple.
Marc, c'est la première pour toi, je crois, cette saison.
Oui, je suis ravi d'apprendre qu'Imanol est ton basque préféré, puisque je te rappelle qu'on est né à 8 km d'intervalle tous les deux.
Ah bah écoute, je savais pas.
Et voilà.
Oui, mais c'est normal, Marco, c'est comme ça. Il y a Garassi et Baïgouri, ça a toujours été comme ça.
Ouais, mais t'as combien de sélections en équipe de France, Marc, c'est ça?
Autant que toi, je crois.
Avec moi ou sans moi?
Allez, au programme cette semaine, c'est l'événement du week-end, l'ouverture samedi de la 9e Coupe du Monde féminine de rugby. En Nouvelle-Zélande, nos Françaises nourrissent de grandes ambitions, mais quelles sont réellement leurs chances? Nos Bleus peuvent-elles rêver d'un premier sacre mondial? Le Midi Olympique a créé pas mal de remous cette semaine avec sa une lundi annonçant le départ après la Coupe du Monde des adjoints de Fabien Galthié, Laurent Labitte et Karim Ghezal, annoncé du côté du Stade français. Quelles conséquences une telle annonce pour le 15 de France? Ce flou autour de la prolongation du staff peut-il être un problème? Qui pour diriger l'attaque française après 2023 et par ricochet, quel impact sur le top 14? Ça en fait des interrogations. On fait un point sur tout ça, sur cette affaire avec nos spécialistes. Et puis on continuera avec le 15 de France dans la troisième partie. Après 5 journées, des joueurs disparus des radars affichent une forme internationale. Raka, Ituria, mais pas seulement. Alors à un mois des tests de novembre et à un an de la Coupe du Monde, ces joueurs peuvent-ils encore bousculer la hiérarchie? Et y a-t-il encore des places à prendre? On en parle dans Arrêt Buffet. C'est parti. Messieurs, vous avez évidemment réglé déjà votre réveil. Samedi, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde féminine de rugby en Nouvelle-Zélande. Et à 3h15, le 15 de France lancera la compétition face à l'Afrique du Sud à l'Eden Park d'Auckland à 3h15 dans la nuit de vendredi à samedi. Nos Bleus sont dans une poule relevée puisque outre l'Afrique du Sud, il y a l'Angleterre, les fameuses Red Roses, les favoris de la compétition avec la Nouvelle-Zélande. Et puis, on retrouve dans cette poule également les Fidji. Alors, avant de rentrer plus en détail sur la compétition, Imanol, moi j'avais une question pour toi. Une Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, c'est un événement, tu l'as vécu évidemment, on s'en souvient en 2011. Quel souvenir gardes-tu de l'ambiance, de la ferveur? Il y a la pression de la compétition, mais il faut savoir aussi profiter d'un tel événement, non? Quand on est joueur. Quel conseil tu pourrais donner d'ailleurs à nos Bleus, aux filles qui vont découvrir ça?
Bah écoutez, j'ai pas vraiment de conseil à leur donner parce que chaque groupe a sa propre histoire, mais voilà, comme tu l'as souligné, je pense que c'est vraiment important de s'approprier l'événement et de le vivre, voilà, d'être acteur de sa compétition. Donc voilà, puis aux filles, je leur souhaite surtout de profiter de ces moments-là parce que ça arrive quand même rarement dans une carrière. Et en plus, au pays du rugby, c'est tout bon pour elles. Voilà, ça va être génial comme compétition. Forcément, une poule très relevée, mais c'est pas plus mal. Au moins, il n'y aura pas d'observation. Il va falloir rentrer directement dans la compétition et vont savoir rapidement où ils en sont.
Jérémy, Marc, l'objectif pour les Françaises, il est clair. Hein, je ne m'emballe pas quand je dis que l'objectif, il n'y en a qu'un, c'est le titre pour ces filles qui restent sur 2-3e place lors des deux dernières éditions.
Hein. Ouais, clairement. Ouais. Puis, ce 15 de France féminin, il a de réels atouts dans sa manche, notamment la mêlée la plus puissante du circuit mondial, je crois. En revanche, il a aussi de vraies carences, puisque, mis à part Madou Soufal, la deuxième ligne des 1m84, qui sera encore la plus grande joueuse de la compétition en taille, je parle. Cette équipe de France, elle manque cruellement de puissance. Et à ce sujet, tu vois, la paire de centres, Vernier-Philopon, qui sera titularisée contre l'Afrique du Sud samedi, elle fait le boulot, je veux dire, mais elle est pas très active balle en main, pas très dangereuse. Elle souffre de la comparaison avec ce qu'on connaît en Angleterre, avec Emily Scarratt notamment, qui est la star de ce jeu, qui est une trois quarts centre surpuissante, qui crée des brèches et qui fait jouer son équipe dans l'avancée. Donc l'équipe de France, oui, elle a des belles capacités, mais est-ce qu'elle est favorite? Non, clairement non.
Bah après, je crois que les filles le savent, hein, qu'elles ne sont pas favorites. Elles, alors, si on écoute le discours officiel, c'est être en mesure d'être champion du monde. Non, mais je veux dire par là que les derniers mois n'ont pas forcément été rassurants. On avait eu des grosses ambitions sur le dernier tournoi Destination. On se rappelle que le match décisif contre les Anglaises, je crois d'ailleurs que c'était à Bayonne, on s'était fait un petit peu allumer, hein, quand même contre ces mêmes Anglaises qui sont aujourd'hui la meilleure nation du monde. Et là, les matchs de préparation n'ont pas forcément été très rassurants non plus, avec notamment une défaite contre l'Italie. Par contre, là où je rejoins Marco, c'est qu'on sait que y a des vrais atouts dans cette équipe, des vrais facteurs X. On pense aussi à leur Sensus en numéro 9, qui a été élue meilleure joueuse du dernier tournoi des Six Nations. Alors, tu parlais de 2011, Olivier, j'allais dire, c'est un peu ce qu'avait vécu Imanol avec la génération de 2011. C'est qu'on savait qu'ils avaient des atouts énormes, ils ne se présentaient pas forcément en très grand favori, en outsider quand même de la compétition. C'est exactement, à mon sens, la position aujourd'hui des Françaises. Et quelquefois, ça peut aussi avoir du bon de ne pas être présenté parmi les deux nations ultra favorites de la compète.
Il faut souligner que le premier match contre l'Afrique du Sud devrait bien se passer, puisque l'équipe d'Afrique du Sud féminine, c'est quand même très très faible. Les Bleus leur avaient passé 42 points lors de la dernière tournée de novembre. Enfin, elles sont costauds, les Sud-Africaines, mais c'est un défi physique perpétuel et assez prévisible. Donc, enfin, la première étape devrait bien se passer pour les Françaises et les mettre en confiance, je l'espère.
Oui, puisque le gros choc, ce sera lors de la deuxième journée. Hein. Ce sera samedi prochain, enfin, ce sera dans une dizaine de jours maintenant, face à l'Angleterre. Alors, l'Angleterre, je regarde les stats, c'est incroyable. Elles nous ont battu lors des 10 dernières confrontations. Les Anglaises, elles ont remporté leurs 25 derniers matchs. On se retrouve dans la même poule. Alors, en cas de défaite, il n'y aurait rien de rédhibitoire, hein, parce que le système de qualification, c'est les au moins les deux premiers de chaque poule qui passent. Mais bon, ce serait quand même pas mal d'arriver quand même à rivaliser dans cette phase de poule face à l'Angleterre, non ?
Rappelle-toi, Olive, la Coupe du Monde 2019, il me semble que l'Afrique du Sud a perdu contre la Nouvelle-Zélande en phase de poule, ça n'a pas empêché les Springboks d'être champion du monde derrière. Donc évidemment, ça n'aurait rien de rédhibitoire. L'Angleterre, c'est clairement la bête noire de ce 15 de France féminin. Les filles qui, il y a un an de ça, hein, avaient battu deux fois les Néo-Zélandaises. En France, les autres favorites de la compétition, alors on peut dire ce qu'on veut sur l'équipe néo-zélandaise à ce moment-là, il n'empêche parce qu'elle a été bien régénérée cette équipe depuis, mais on avait battu ces fameuses Blacks. Par contre, les Anglaises, ça fait longtemps qu'on n'arrive plus à les battre, effectivement.
Ouais, ce qui est hallucinant chez les Anglais, c'est leur puissance dans l'exercice des molles pénétrants, quoi. Lors du dernier France-Angleterre dans le tournoi Destination, elles avaient marqué 3 ou 4 essais sur pénal touche après molles pénétrants. C'était indéfendable, incontrable. Et d'ailleurs, cette défaite logique avait coûté la place de 2 membres du staff de France féminine. Alors, est-ce qu'elles ont tiré les leçons de cette défaite-là? Je l'espère aussi, quoi.
Ouais, l'entraîneur sélectionneur maintenant, c'est Thomas Darrac. Mais enfin, quand même, ne pas être en mesure de faire face à ces molles, à ces groupés pénétrants. Emmanuel, ça se travaille quand même, ça.
Ça se travaille. Elle le savait aussi lors du dernier tournoi, hein, le match joué à Bayonne. Elle était préparée à rivaliser avec la puissance des Anglaises, mais bon, ça n'a pas suffi parce que les Anglaises ont quand même mis à mal les Françaises. Et puis, outre cette puissance qu'on peut éventuellement contrer, même en se préparant, elles ont quand même, les Anglaises, elles ont 2-3 joueuses qui sont au-dessus physiquement et qui font vraiment beaucoup de différence et qui sont vraiment dures à arrêter. Donc, ouais, il y a vraiment une machine en face, mais je ne pense pas que non plus l'écart soit insurmontable. Donc, voilà, avec peut-être un grain de folie, un peu de confiance, une spirale positive au moment d'attaquer cette phase de poule, premier match pour se mettre peut-être en confiance contre les Sud-Africaines, pourquoi pas arriver à une belle compétition, mais on va être vite fixé. Oui, après, c'est sûr que les Anglaises, voilà, c'est quand même très solide.
Un mot sur les joueuses à suivre, hein, du côté de nos Bleus durant cette compétition, messieurs. Bon, là, il y a Gaëlle Armé, la capitaine, qui sera absente, hein, lors du premier match face à l'Afrique du Sud, mais tu l'as évoqué, il y a Laure Sensus, hein, était donc meilleure joueuse du dernier tournoi des Destinations. On peut parler de Caroline Drouin également, la vice-championne olympique à 7, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est quelques-unes des joueuses à suivre dans la compétition.
Qui formera la charnière avec Laure Sensus. Oui, Laure Sensus, c'est un atout incroyable, d'autant que cette fille, qui vient d'être élue meilleure joueuse du tournoi Destinations, meilleure internationale française de l'année, elle mettra un terme à sa carrière à l'issue de cette Coupe du Monde, à seulement 27 ou 28 ans. Voilà, elle a décidé depuis un petit moment. Je vous conseille de lire l'interview dans le Middle Mag de ce mois-ci, interview croisée avec Pauline Bourdon, où elles évoquent d'ailleurs pour la première fois toutes les deux leur vie de couple. Ces deux filles qui jouent au même poste, qui se partagent le poste de demi-mêlée en équipe de France et au Stade Toulousain, et ben voilà, elles sont amoureuses dans la vie, elles vivent ensemble, elles vont se marier l'été prochain, c'est assez rigolo comme situation, et ce sont deux des meilleurs atouts d'ailleurs du 15 de France. À suivre aussi quand même la composition de la troisième ligne, tu l'as dit, la capitaine Gaëlle Hermé est absente, elle s'entraîne de nouveau normalement, mais elle a été jugée un petit peu trop juste, il y a Julie Henry aussi qui est encore un peu juste, et c'est peut-être aussi pour préparer un peu le défi physique, elle a été choisie en troisième ligne de titulariser Escudero et Mayence. Escudero qui peut jouer aussi deuxième ligne, qui est assez puissante, et Mayence qui est certainement la meilleure plaqueuse française. C'est peut-être aussi pour ramener de l'énergie, de la présence physique dans ce pack que ce choix a été effectué.
Voilà ce qu'on pouvait dire hein, sur les filles qui vont démarrer cette Coupe du Monde à partir de ce week-end. Évidemment, chaque semaine, on en parlera. On essaiera, pourquoi pas, d'avoir Simon Valzer hein, qui est là-bas pour le Midi
Envoyé
Olympique.
Spécial.
Envoyé spécial.
Envoyé très spécial.
Ouais. Non, mais bon, après, il faudra qu'il se couche un petit peu tard, je crois, pour qu'on enregistre le podcast.
Hein. Ça me dérange
le matin, mais ça ne le dérange pas, ça, non ? C'est pas un problème.
Lève tôt.
Ouais, d'accord. Juste un mot quand même de manière plus générale sur le rugby féminin. On voit là, cette compétition est quand même diffusée sur une grande chaîne nationale, TF1. Il y a eu la médaille d'argent aux Jeux Olympiques grâce à l'équipe de France à 7. Vous, au Midi Olympique, est-ce que vous sentez que les filles sont en train de se faire peu à peu, évidemment, une petite place par rapport aux garçons?
Écoute, oui, le rugby féminin le va en poupe. 2,4 millions de pratiquantes dans le monde, des pics d'audience à 2,8 millions ou 2,9 millions, je crois, sur la dernière victoire face au All Black il y a 2-3 ans. Oui, clairement, ça fonctionne bien. Nous, au Midi Olympique, pour l'instant, on le sent pas trop. Au niveau des audiences sur Rugby Rama ou sur les ventes en kiosque, pour l'instant, non, mais ça va venir, j'imagine.
Ouais, très bien. Alors, il y a quand même au-delà de ça, il y a quand même une vraie vague de sympathie autour de cette équipe-là, et ça s'est vu dans les stades. Je sais pas si tu y étais, Emmanuel, à Bayonne, mais les filles qui ont fait quasi le plein avec de l'ambiance en tribune, et les filles avec qui on a pu discuter, mais quand moi j'ai fait cette interview de Sensus et Bourdon, elles nous disaient, on sent quand même que il y a beaucoup plus d'enthousiasme autour de nous. Les gens sont hyper bienveillants. Par exemple, ce jour-là, on a perdu, ils nous ont tous encouragés. Il y a un truc qui est quand même en train de prendre autour de cette équipe, et c'est tant mieux. Et effectivement, la Coupe du Monde peut finir de servir de déclic à ce niveau-là.
Ouais, il faudra pour ça un gros résultat quand même.
Ouais, je relèverai de plus que quand l'équipe de France des hommes, hein, je parle, elle est mal, cette équipe de France féminine, voilà, elle a tiré la lumière sur elle de par déjà un discours rafraîchissant, de l'enthousiasme, une certaine énergie, et puis voilà, une façon aussi de jouer qui est en progression, et puis des résultats. Donc forcément, voilà, c'est une équipe aussi qui va avoir besoin de résultats un peu pour attirer les projecteurs sur elle et puis sur le rugby féminin. Mais c'est vrai que ça faisait plaisir en tout cas avoir joué cette équipe. Donc voilà, on leur souhaite plein de bonnes choses pour cette Coupe du Monde.
Oui, ce qui plaît aux gens, c'est que le rugby féminin ressemble au rugby de papa, quoi, au rugby qu'on a connu dans les années 80-90. C'est un rugby fait de vitesse, d'évitement, et il y a très peu de jeu au pied, quoi. Donc oui, c'est spectaculaire et c'est très agréable à suivre.
Allez, on leur souhaite bonne chance à nos filles. Ça démarrera donc dans la nuit de vendredi à samedi à partir de 3h15 face à l'Afrique du Sud. On va parler encore du 15 de France, mais des garçons cette fois. Messieurs du Midi Olympique, dites-moi, vous avez créé une belle pagaille avec votre une lundi sur les bouleversements dans le staff de Fabien Galthié après la Coupe du Monde. Si j'ai bien compris, vous annoncez le départ des adjoints Laurent Labitte, le coach de l'attaque, et Karim Ghezal, l'entraîneur de la touche. Ils pourraient signer tous les deux au Stade français. C'est une sacrée info, ça. On peut peut-être d'ailleurs s'étonner du timing. Pourquoi ça sort maintenant? Pourquoi ce flou entretenu autour du staff de l'équipe de France?
La situation contractuelle des adjoints de Fabien Galthié, c'était une bombe à retardement, hein, puisque la Fédé a repoussé les négos, et au final, on arrive à la situation que l'on connaît, quoi. Mais après, c'est juste la fin d'un cycle naturel de 4 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant? Moi, je trouve pas, quoi. Pour Laurent Labitte, c'est l'évolution normale d'une carrière, d'un mec qui a été l'adjoint de tout au travers pendant 10 ans, le bras droit de Galtier à l'heure actuelle, et qui a vécu dans l'ombre et qui veut voir ce qu'il a dans le ventre aujourd'hui. Et s'il a la capacité d'être numéro 1 au sein d'un gros club, puisque le Stade français reste, quoi qu'on en pense, un gros club du championnat, quoi.
Mais est-ce que ça n'arrive pas trop tôt, cette information-là? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça déstabilise un peu la préparation de l'équipe de France?
Bah, oui, ce qui est sûr, c'est que ça crée une incertitude au sein du staff. Hein, parce que, de ce que je sais, il y a quand même pas mal d'interrogations. Il y a surtout beaucoup de non-dits, parce qu'on ne parle pas de ça en interne. Donc, c'est un peu le flou artistique. Fabien Galtier aussi est en négociation, même je crois que ça a été annoncé qu'il allait re-signer, mais qui de ses adjoints, apparemment, c'est quand même assez flou. Et ça peut créer comme ça des tensions en interne. Hein. Le timing peut être, en tout cas, pour ne pas dire mauvais, il est pas très bon. C'est vrai que je pense que quand on fait partie comme ça d'un staff, on aime bien avoir les idées claires, savoir qui fait quoi. Et aujourd'hui, rien n'est clair au sein du staff.
Comment les joueurs peuvent-ils le vivre, ça, selon toi, Emmanuel? Est-ce que ça a un impact sur eux ou pas?
Non, pour les joueurs, je pense que ça n'aura pas d'impact majeur. Je pense qu'ils sont vraiment concentrés, focalisés sur leur performance. Non, c'est pas gênant pour l'équipe de France, mais ça peut être gênant pour la suite.
Non, parce que ces joueurs, ce sont des champions, et puis ce sont des joueurs pros. Enfin, ils sont habitués à ce genre de changement dans leur écosystème de club, quoi. Je veux dire, enfin, on parle quand même de mecs qui ont gagné le Grand Chelem, qui ont battu les All Blacks. Enfin, comme le dit si souvent Jérémy, ils ont des couilles en plomb, cette bande en Dupont. Là. Enfin, je ne fais vraiment aucun souci pour eux, quoi. Ouais, les non-dits au sein du staff, oui. Par contre, il faudra les gérer tôt ou tard et crever l'abcès. Clairement.
Parce que là, je rappelle, hein, donc Fabien Galtier est le seul à avoir prolongé jusqu'en 2027. Thibaut Giroud, le préparateur physique, on le savait depuis longtemps, lui, va partir pour le Racing. Après, pour Fabien Galtier, son avenir dépendra peut-être du résultat du procès de Bernard Laporte, hein, dont le verdict est attendu le 13 décembre. Ça aussi, on verra pour la suite après la Coupe du Monde. Quel est ton avis, toi, là-dessus, Jérémy, sur cette situation?
Ben là, j'ai envie de te dire que évidemment que plus vite les choses seront réglées, mieux ce sera, parce que à la rigueur des futurs départs, ça peut être très bien vécu. C'est aussi ce que tout le monde vit en top 14 tous les ans. On s'étonne. Alors le grand public s'étonne à chaque fois que dès septembre, octobre, on commence à sortir et des rencontres entre des clubs et des joueurs et des joueurs qui ont déjà signé ailleurs. Ben, les mecs, ils sont en fin de contrat 8 ou 9 mois plus tard, ils veulent assurer leur avenir. Mais là, c'est la même chose pour les entraîneurs et ça se passe. Franchement, ça se passe tous les 4 ans au niveau du 15 de France. Pourquoi ça fait un petit peu plus de bruit? C'est parce que cette fois, le 15 de France fonctionne très bien et au niveau du grand public, on aurait voulu que ce soit une longue ligne droite. Et la petite chose qui peut-être semer un peu le trouble, c'est que Fabien Galtier, comme l'a dit Emmanuel, lui, il a déjà prolongé, trouvé l'accord pour prolonger après la Coupe du Monde. Bon, mais voilà, ce sera avec certains autres adjoints. J'ai envie de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est qu'il faudrait maintenant assez vite clarifier la situation de chacun. Pour rappel, on a aussi écrit dans Midi Olympique que pour Sean Edwards et Raphaël Ibanez, ça devrait se faire rapidement et eux devraient continuer l'aventure, en tout cas.
Mmh. Bah, des indispensables, il y en a plein les cimetières, hein, comme on dit. La vie ne s'arrêtera pas après 2023. En revanche, moi, je comprends la position des partants, Labitte, Guézal, Giroud, dans le sens où on vit actuellement un âge d'or du rugby français, parce que les clubs consentent d'énormes sacrifices sur la libération des internationaux. Et est-ce que ça va durer 10 ans? Moi, je pense pas. Ces sacrifices, ils les consentent parce qu'on a un mondial en France et un mondial qu'il faut gagner, quoi. Et j'ai bien peur qu'après 2023, on en revienne aux guéguerres intestines entre la Fédé, les clubs et la Ligue, quoi. Et je pense qu'ils en sont aussi conscients.
Et ça, c'est un vrai sujet, hein, qu'est en train de souligner Marc. Hein. Franchement, c'est qu'aujourd'hui, ce Mondial 2023, s'il a eu un vrai atout, un vrai avantage, c'est qu'il a servi de catalyseur pour aller faire un petit peu le pacte commun de toutes les entités du rugby français. Alors, c'est très bien, on marche tous main dans la main et on a la chance en plus que dans le même temps, on a une méga génération qui nous amène des résultats, qui nous a ramené quand même une jolie image sur ce 15 de France et par conséquent sur le rugby français. Mais il y aura un après 2023, la prochaine Coupe du Monde, elle ne sera pas en France. Et là, par contre, les désaccords, ils peuvent très, très vite revenir, en plus, sur fond, évidemment, de la situation à la Fédération, qui aujourd'hui est quand même très incertaine.
Alors, cette une par ricochet impacte les clubs de top 14, hein, le Stade français notamment, puisque donc vous annoncez que Laurent Labitte pourrait devenir le manager du Stade français. Du coup, quel avenir pour Gonzalo Quesada? Ça amène une drôle d'ambiance quand même dans le club. Pour le coup, c'est un beau micmac, non, pour cette équipe qui n'a pas besoin de ça. On sait que ça flotte un peu avant un match en plus capital face à Perpignan ce week-end.
Marc, toi, la situation est pas très stable de toute façon au Stade français depuis l'année dernière. On parlait dans la dernière émission d'une saison aussi un peu transitoire, gérée aussi avec les aléas des plafonds de masse salariale. Donc voilà, c'est vrai que peut-être que le Stade français n'a pas fait tous les choix qu'il voulait faire quant au recrutement, par exemple, ou au changement de son groupe. Donc voilà, c'est une année transitoire. Cette information, forcément, qu'elle va pas forcément, excusez-moi, elle va pas changer non plus la donne et la saison, je pense, des joueurs. Voilà. S'il y a quand même de la cohésion, et je pense que c'est cher aussi à Gonzalo Quesada que le groupe vive bien, il fera en sorte que ça se passe bien et dans le pire des cas, peut-être que ça donnera aussi peut-être l'envie aux joueurs de bien finir aussi tous ensemble, parce que ce sera certainement aussi le fin d'un cycle, que ce soit pour Gonzalo Quesada, mais aussi pour pas mal de joueurs. Donc, l'aventure d'une histoire commune, parfois, on a envie de bien la finir. Donc, avoir un peu, ben, ça va peut-être permettre à ce groupe, finalement, de trouver une identité ou une volonté commune de réaliser une belle saison. On cherchait un peu des points, en tout cas, de cohésion la semaine dernière, mais peut-être que ça en sera. Hein.
Il vient de soi que Gonzalo Quesada est fragilisé actuellement, que sa relation avec Thomas Lombard, le DG du club, n'est pas au beau fixe, et que Gonzalo Quesada ne fera pas équipe avec Laurent Labitte après la Coupe du Monde, quoi. Mais est-ce que Gonzalo Quesada finira la saison? Ça, c'est une autre question, quoi. La question mérite de se poser. C'est le flou artistique autour de sa situation actuellement.
Bah, la situation, elle est... Olivier, elle est explosive. Et c'est logique. Mets-toi à la place aussi de Gonzalo Quesada, qui, comme toi, a reçu cette information dans le week-end, même si, faisant partie du milieu, il avait dû quand même avoir des vrais bibes. Mais la situation, elle est explosive aujourd'hui à Paris, et les résultats sportifs ne font pas en sorte de l'apaiser non plus.
Oui, d'autant, je le rappelle, qu'il y aura un match quand même donc très important ce week-end face à Perpignan. Alors, on anticipe un peu, mais... Parmi les potentiels successeurs de Laurent Labitte, il y a des noms qui sortent du chapeau. J'ai vu Pierre Mignoni, Hugo Mola. On doit surveiller ça de près aussi du côté du Stade toulousain ou de Toulon, non ?
Bah, là, sur ce sujet, j'ai envie de te dire, Olivier, que c'est prématuré, mais c'est normal que ce soit ces noms-là qui sortent les premiers. Pourquoi ? Parce que Bernard Laporte et même, je pense, Fabien Galthié, ils sont pas fous. Ils vont aller chercher le plus de compétences possibles. Pierre Mignoni, il a été l'adjoint pendant des années de Bernard Laporte. Ils ont juste été champions d'Europe ensemble. Son CV est ultra reconnu. Hugo Mola, c'est l'entraîneur du moment. Le Stade Toulousain, champion de France 2019-2021, champion d'Europe 2021. C'est normal que ce soient les premiers noms, j'allais dire, qui sont évoqués. Après, ne pas oublier que ce sont des mecs qui sont numéro un dans leur club, qui sont sous contrat longue durée. Et aujourd'hui, il me semble prématuré pour aller plus loin que ça.
Bon, je pose la question différemment. Vous aimeriez voir qui, par exemple, succéder à Laurent Labitte?
Ah, ça, c'est une bonne question, Olivier.
Merci.
On ne se l'est pas posé, d'ailleurs. Mais pour revenir au premier sujet, je vois mal quelqu'un qui est numéro un aujourd'hui dans son club, que ce soit Pierre Mignoni ou Hugo Mola, passer à entraîner.
Même pour l'équipe de France Même pour l'équipe de France, Emmanuel de...
Non, je ne crois pas. Je pense qu'ils ont vraiment... C'est des personnes et des managers qui aimeraient certainement entraîneur de l'équipe de France. Je les vois mal repasser au stade d'adjoint sous la coupe et sous les ordres de Fabien Galthié, par exemple.
Il ne faut pas oublier que tu fais un sacrifice financier quand tu passes de numéro 1 en club à adjoint en 15 de France. Et le sacrifice financier, il est tout sauf anodin, quoi. Surtout s'il y a changement de présidence en juillet prochain.
C'est un autre sujet.
Ça, mais que Marc connaît très bien. Mais je rappelle, oui, que ça pourrait avoir des incidences, hein, quand même, ce changement de présidence. On n'en est pas là.
Olive, sur la dernière
verdict, ce sera le 13 décembre.
Sur la dernière élection à la Fédé, il ne faut pas oublier que Fabien Galthié avait quand même mis son avenir dans la balance par rapport à la réélection ou non de Bernard Laporte. Ce n'était pas rien quand même à l'époque.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, écoutez, voilà une autre affaire qu'on va surveiller de près et du côté du Stade français de Toulon et du Toulouse et puis évidemment du côté de la Fédération pour savoir qui succédera à Laurent Labitte et à Karim Ghezal comme adjoint de Fabien Galthié. On reste sur l'équipe de France. On va parler du sportif un peu parce que là, on parle que d'affaires, d'histoires pas possibles. On va parler un peu des joueurs maintenant à un mois des tests de novembre. Alors, j'ai lu dans le Midi Olympique de cette semaine avec beaucoup d'intérêt ta chronique, Jérémy. Mais oui, je lis tout, hein, moi, dans le Midi Olympique. Tu évoques le cas de Arthur Ituria, de retour au premier plan et candidat crédible à une place dans le groupe France dans un mois pour les tests de novembre. Et ça m'a donné envie de vous poser cette question. On voit des joueurs flamber depuis le début de la saison en top 14. Est-ce qu'il y a des joueurs un peu disparus que vous avez envie de voir justement dans un mois? Là, on vient d'apprendre la blessure, l'opération à nouveau par arme de Gabin Villière. Ça fait une place à l'aile. Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça que vous avez envie de revoir en équipe de France, Imanol?
Arthur Ituria.
Pourquoi?
Ouais, parce qu'il a, il a mangé son pain noir. Il a après de nombreuses blessures où voilà, il avait un peu rétrogradé ou en tout cas il était affaibli sportivement. Là, on le sent en pleine capacité de ses moyens, plus fort, capitaine de l'ASM, dans une forme vraiment international, donc et puis moi c'est un joueur que j'affectionne parce que outre ça, il s'est endurci en plus, voilà, on le voit dans le combat, très présent défensivement, il plaque énormément et voilà, il a toutes les capacités, c'est un très bon joueur en touche, puis c'est un joueur qui a des très bonnes mains, qui a cette capacité aussi à faire jouer dans le contact en tombant des petits offloads d'une main. Voilà, moi c'est un joueur que j'affectionne et ce serait pas pour me déplaire que de le revoir avec la tunique bleue.
Je suis absolument pas étonné que son profil plaise à Imanol. Moi, si j'avais écrit ce papier, Olive, dans le journal, c'était pour. Faut pas se oublier que Ituria, en 2018-2019, c'est un taulier du 15 de France, quoi. Et on pensait qu'il serait là pour 10 ans, inamovible. Alors, on l'a un peu oublié, mais j'allais dire que ces dernières semaines, on reparle de lui. C'est juste la situation qui revient à la normale. Dans son profil, alors c'est pas forcément un oublié, mais bon, pour suivre le Stade Toulousain, les voir jouer depuis le début de saison, je peux vous assurer que c'est Alexandre Roumat. Je suis impressionné par son début de saison et je pense que c'est un garçon qui a aussi une carte à jouer. Puis après, tu parlais de la blessure de Gabin Villière qui forcément va ouvrir des places à l'aile. Alors, il y a Mathis Lebel qui avait été très bon au Japon, qui réussit son début de saison. Teddy Thomas, on sait qu'il bon, il est en train de revenir avec La Rochelle. Et l'autre Clermontois qu'il faudra surveiller, c'est Ali Veretiraka, hein, qui on n'en a plus entendu parler depuis la Coupe du Monde 2019, mais qui est flamboyant ce début de saison aussi avec Clermont.
Oui, bien sûr. Moi, je suis face à Lyon.
Je suis d'accord avec vous sur le début de saison de Roumat et Ituria, mais ma question c'est est-ce qu'ils sont assez denses pour répondre aux défis physiques que vont proposer les Springboks le 12 novembre à Marseille, quoi. Moi je crois qu'en l'état, la troisième ligne Olivon, Gelonche, Aldrit, c'est celle qu'il nous faut pour répondre à ce que vont nous proposer les Sud-Africains. Concernant Raka, évidemment on n'a pas d'ailier de ce profil là en équipe de France. Il a un crochet intérieur qui est hallucinant, il a des qualités de finisseur dingue, mais il a aussi de vraies carences en défense et sous les ballons.
Est-ce que ce groupe-là, maintenant, il va rester figé à un an de la Coupe du Monde? Vous pensez quand même que ces joueurs-là peuvent vraiment bousculer la hiérarchie, pas seulement profiter des blessures actuellement pour disputer les tests de novembre, ou même dans un an, pouvoir essayer de gagner sa place pour la Coupe du Monde? Ou est-ce que maintenant c'est fermé ou l'horizon est quasiment bouché?
Ce qui est certain, c'est que pour les joueurs en place, hein, entre guillemets, et à un an comme ça d'une Coupe du Monde et quand on est assuré d'avoir une place certaine, ben justement, il ne faut pas trop la laisser sa place parce qu'on sait que les appétits vont être voraces et qu'il y a des joueurs comme ça qui peuvent avoir la bonne idée de réaliser une saison assez énorme ou de retrouver un niveau incroyable. C'est peut-être ce qui va se produire pendant la saison, quand on voit le début de saison aussi de Raka ou de Ituria, par exemple, ou d'autres
comment
joueurs.
Comment tu peux expliquer ça, Emmanuel, que des joueurs comme ça disparaissent un peu des radars après des sélections et reviennent comme ça?
C'est le lot de chaque saison et de chaque joueur. Voilà, c'est vrai qu'il y a des blessures aussi ou des méformes qui sont plus ou moins faciles à digérer, voilà, des spirales qui peuvent être plus ou moins longues, un état aussi mental, et puis la dynamique du club, hein, ça y fait beaucoup, hein, quand on est dans une équipe aussi performante. Alors ça peut être dû à notre tribu, à savoir les performances qu'on réalise, mais aussi les performances que réalisent les copains, parce que voilà, on a besoin de tout le monde dans une équipe de rugby, et forcément, quand on retrouve un peu de confiance, comme c'est le cas actuellement de Clermont, il y a des joueurs qui retrouvent aussi la confiance et qui ressortent du panier. Donc voilà, ce qui est important surtout, comme je disais, c'est de pas trop laisser sa place, parce que même si c'est sur blessure, voilà, une tournée de novembre où un joueur peut grignoter du temps de jeu, ça peut pas redistribuer les cartes, mais ça peut en tout cas ouvrir la porte. Et je pense que il va y avoir quelques surprises d'ici la Coupe du Monde.
Mais en plus, Olive, pour répondre à ta question, s'il y avait eu zéro blessé, le groupe en place, je t'aurais dit, évidemment, il n'y aura pas beaucoup de changements, les mecs sont en place, à part un ou deux ovnis, comme les appelle Galtier, mais ça, c'est dans un monde idéal, et on voit bien en ce moment que ça n'existe pas, et d'ailleurs, en ce moment, on n'est pas épargné, hein, voilà, Cyril Baye, François Cross, Gabin Villiers, Virimi Vakatawa, Arthur Vincent, bon, et Romain Tamac, et j'en oublie, et ben voilà, toutes ces blessures... On dit souvent, hein, c'est une la palissade, mais le malheur fait le bonheur des autres. Et bien, ça ouvre la chance à d'autres. Et on a eu des exemples là, ces dernières années. Gabin Villiers en a été un, Melvin Jaminet en a été un. Quand un mec rentre, même sur blessure, et qu'il fait un gros match, après, il faut pouvoir le déloger. Donc, effectivement, un an, c'est long. D'ici là, il peut y avoir d'autres blessures, il peut y avoir beaucoup de méformes, il peut y avoir des mecs qui éclatent, qui explosent. Et on ne sait pas encore, hein, l'équipe qui sera alignée en novembre prochain.
Vous imaginez donc Fabien Galtier faire appel à un garçon comme Raka ou Ituria, les arrêts?
Raka, pourquoi pas. Ituria, je te rappelle que c'est quand même Galtier qui l'a mis de côté en 2019 lors de la Coupe du Monde. Ituria est arrivé avec un statut de titulaire et de favori pour le poste de 6 en équipe de France. C'était le poulain de Jacques Brunel. Et quand Fabien Galtier arrive aux commandes, il le met un peu de côté. Est-ce que Fabien Galtier est quelqu'un qui revient sur ses décisions initiales? Je le connais pas assez bien pour le dire, mais de l'extérieur, je crois que non. Mais bon, je peux me tromper.
Est-ce que vous avez d'autres noms comme ça qui vous viennent en tête parmi les joueurs qui réussissent des bons débuts de saison et qui peuvent essayer de troubler la hiérarchie, je dis au hasard, hein, je ne sais pas, au poste de demi-mêlée ou même à l'arrière avec un garçon comme Boutier, le Montpellierain?
Ah ben alors là, le problème, c'est que tu viens de citer deux postes où j'allais dire ça tombe de l'arbre. Là, ouais. Parce qu'en demi-mêlée, effectivement, par exemple, un garçon comme Léo Colli, il crève l'écran, il est super fort, mais... Mais bon, on a Antoine Dupont, on a Maxime Loucou, on a Couillou, on a Serin qui est bon à Toulon, on a Le Garay qui éclate au Racing, enfin voilà, et à l'arrière c'est pareil, Jaminet, Dulin, Ramos, Buros, enfin oui, donc les garçons que tu viens de citer, enfin en tout cas sur les postes que tu viens de citer, il me semble que les mecs sont en place, bon numéro 9 c'est réglé pour le poste de numéro 1, à l'arrière ça va être intéressant quand même. La bataille entre les Jaminet, Ramos, Dulin, ça risque d'être intéressant.
Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, le poste d'arrière, il est réglé depuis fort longtemps. T'as un buteur à 95% ou 92% oui. Aujourd'hui. La frappe de Jaminet, elle est exceptionnelle. Elle est unique au niveau international. Et je crois que jamais Fabien Galtier et son staff ne se priveront de ce garçon.
Je disais juste qu'il est moins installé que Dupont, à mon sens, bizarrement.
Ouais. Bon. Il y a la confiance qui peut jouer, hein, dans une année comme ça, après Coupe du Monde, où il va y avoir bagarre à certains postes. Voilà, il va falloir élever le curseur et on va voir aussi s'il y a des fragilités, hein, au niveau du mental de certains joueurs. J'ai vu Jaminet le week-end dernier, serein, sur les ballons notamment, alors qu'on l'avait vu peut-être parfois un peu hésitant. Donc voilà, je pense qu'il y a la confiance qui va jouer beaucoup, surtout sur un poste comme ça où on peut être sollicité sur les ballons hauts. Il n'y a pas que le jeu au pied, Marco, même si c'est important pour gagner les matchs, je suis d'accord avec toi. Mais il va y avoir de la concurrence. Après, je ne sais pas où ce qu'il en est de son passeport, mais moi, il y a un joueur que j'aimerais bien voir évoluer au niveau international. C'est le deuxième ligne Méafou de Toulouse, parce que je trouve qu'il pourrait vraiment amener quelque chose. Alors, je ne sais pas quand c'est qu'il sera éligible ou s'il est déjà.
Demande de passeport est faite. Il est en attente. Il l'a toujours entre les mains. Donc, il est pas
sélectionné. Ça fait plaisir d'avoir affaire à des professionnels.
Ah, mais toi, Jérémy, qui le connais bien, est-ce que Méafou, il a vraiment la caisse, je veux dire, pour survivre au niveau international? On a vu que pour Paul Willemse, sur les deux premières sélections, ça avait été un enfer. Il avait dû perdre 15 kilos. Méafou, il semble un peu en surpoids quand même. Là.
Alors, on va être totalement transparent. Il en est totalement conscient. Il est revenu un petit peu trop lourd cet été d'Australie. Et par contre, il est en lien avec le staff du 15 de France et notamment avec William Servat. Il sait que s'il veut postuler à l'équipe de France, une fois qu'il aura le passeport entre les mains, on lui a demandé de perdre entre 5 et 10 kilos. Et il n'a aucun mal à le dire lui-même. Après, là où je rejoins Imanol, c'est que des profils comme ça, je pense qu'il en existe quand même très très peu, non pas en France, mais dans le monde même.
Très bien, eh bien écoutez, on va surveiller ça avec attention. La liste qui va tomber, oh, ce n'est pas encore tout de suite, hein. Il y a d'abord
19 octobre.
Oui, ouais, remarquez, ça va aller vite hein, quand même. On attend ça avec impatience. Oui. Ça nous donnera pas mal d'indices. On aura l'occasion de parler de tout ça dans un nouveau numéro d'Arrêt Buffet. Merci messieurs, ça s'est bien passé.
Merci messieurs.
Ah ben, hein bon, n'oubliez pas N'oubliez pas de mettre votre réveil hein, dans la nuit de vendredi à samedi, 3h15 hein, pour le premier match. D'accord ?
Ou de ne pas se coucher.
Voilà, c'est ça. Allez, salut.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.